5h, 5h30.
Bonjour chez vous.
Avec EMCI TV.
Bonjour à tous, bienvenue pour cette dernière journée de la semaine dans Bonjour chez vous. Aujourd'hui, nous vous exhortons à garder la foi dans l'épreuve. Vous traversez peut-être une situation difficile qui dure depuis longtemps. Persévérez dans la foi, ne lâchez pas, c'est notre encouragement pour vous aujourd'hui avec Frank et Aurélie. Yes. Hello.
Bonjour Evelyne.
Salut.
Bonjour
tous les deux.
Bon vendredi à tous les deux, ça va?
Ça va bien, mais Frank n'a pas chanté ce matin.
Non, ce n'est
pas
un matin.
Vendredi, généralement, tu chantes plus
non,
trop.
Non, je suis trop chanteux.
Ni lundi, ni vendredi, c'est passé bonne journée à Frank.
Non.
Faut le prendre au milieu de la semaine.
C'est ça.
Oh, aujourd'hui, un super thème avec un super témoignage. On est vendredi. Vendredi, c'est non pas ravioli, mais c'est mon histoire. Ça n'arrive pas, donc il fallait que je fasse une rime. Aujourd'hui, c'est le pasteur Chris Campion qui nous raconte son histoire. Vous allez voir l'épreuve qu'il a traversée alors qu'il était tout jeune converti. Et il a été hospitalisé pendant un an, des douleurs terribles. J'en dis pas plus, mais vous verrez surtout comment le Seigneur l'a relevé. Et ça encourage quand on entend des histoires de personnes qui ont vécu des choses difficiles. C'est terrible. On ne veut pas s'encourager avec les malheurs des autres. Mais on se sent moins seul. Puis on se dit, OK, si Dieu a intervenu dans sa vie, il peut intervenir dans la mienne. Ça encourage. Ça encourage. Allez, on commence tout de suite cette très belle émission. On vous encourage à avoir le cœur ouvert. Et on enchaîne avec la pensée du jour.
Et on parle de persévérer dans l'épreuve. Et puis, j'ai envie de ne pas être compliqué aujourd'hui. Ça vous intéresse? Pas compliqué. Garde la foi. Amen. Garde la foi dans ce que tu traverses. Beaucoup de personnes vont être tentées d'abandonner, de laisser tomber parce que c'est compliqué, parce que ça dure. Mais aujourd'hui, je te dis, garde la foi. Et comme dit le thème de l'émission, garde ta foi aussi. Il y a la différence entre les deux. Garde la foi, c'est je m'accroche au Seigneur, je m'accroche à ce qu'il a dit. Mais là, garder ma foi, garde ta foi, c'est-à-dire je vais m'assurer en effet qu'elle soit pas atteinte ou affaiblie dans le combat dans lequel je lutte en ce moment. Parce que alors que tu es dans ce combat de la foi, je veux vraiment mettre l'accent aujourd'hui sur le fait de ne pas mépriser la parole de Dieu. Souvent, on est dans des combats comme ça et on va juste y aller par nos propres forces, par « Ah, je me rappelle de telle chose, de tel témoignage », c'est des bonnes choses. Mais quand tu es en train de traverser une épreuve, le fait de t'asseoir et de méditer et de lire la parole de Dieu, c'est quelque chose d'extraordinairement puissant. Les gens vont minimiser la force et qu'est-ce que la parole va produire en nous. Plusieurs points que je vais énumérer par rapport à la parole et ce qu'elle fait. Premièrement, elle est la source de paix. Dans ce que tu traverses, ça peut être compliqué. Tu peux être dans des crises d'anxiété. Tu peux être dans des moments très compliqués. La parole va amener la paix dans ta vie. Alors que tu la médites, je peux pas expliquer pourquoi ni comment, mais parce qu'elle est vivante, parce qu'elle est vraie, parce que le Saint-Esprit travaille à travers la parole. Alors que tu la médites, il y a une paix qui s'installe. C'est extraordinaire. Elle est une source de joie. Tu vas lire la parole, une histoire, quelque chose, et tu sais pas pourquoi, parce que tu es dans un moment de deuil, parce que tu es dans un moment compliqué, et soudainement, tu sens la joie en toi qui commence à remonter, à jaillir. Ça, c'est ce que fait la parole de Dieu. C'est surnaturel en soi. Elle est une source de réconfort quand tout semble mal aller. Ça, c'est tellement fort. C'est alors que tu traverses une tempête, tout comme quand un enfant vit quelque chose de compliqué, soudainement, maman ou papa arrive et le prend dans ses bras. Et l'enfant, soudainement, même si à son niveau, c'est une toute petite tempête que l'enfant traverse, mais là, soudainement, il y a le réconfort de maman, de papa qui est là, et tu fais « wow ». Et alors que tu lis la parole, elle est une source de réconfort extraordinaire. Tu te dis « Seigneur, je me confie en toi. Aujourd'hui, je me rappelle que c'est entre tes mains. C'est cette personne, ce qu'elle vit, c'est entre tes mains. Père, le combat que mon mari et moi on traverse, c'est entre tes mains. Ce que mon enfant traverse, je remets entre tes mains. Tu me t'es une source de réconfort, c'est extraordinaire. Elle est la vie. Elle amène même la vie, même dans les os, c'est ce que la parole de Dieu dit, même dans le corps physique, la parole amène la vie. Elle est guérison, elle est forte, elle est agissante. Elle relève l'âme qui est abattue. Il y en a qui sont dans des dépressions depuis des mois et des années. Et alors que tu médites la parole, je veux même le dire et prophétiser sur ta vie que ton âme va être relevée. Elle va être restaurée. Le Seigneur dit que le psaume 23, elle restaure et il restaure mon âme. C'est fort, c'est extraordinaire. Elle contre les attaques, elle va venir contrer les attaques de l'ennemi dans le combat que tu vis en ce moment. C'est-à-dire que l'ennemi va vouloir venir piquer par des pensées, par des faux raisonnements, par des mensonges. Il va vouloir venir condamner, venir. Mais la parole, elle va faire une œuvre en toi que, waouh, c'est vrai. Ce qu'elle dit, c'est vrai. Satan, t'es un menteur. Je ne mourrai pas, je vais vivre. Je ne vais manquer de rien. Même si ce mois-ci, c'est compliqué financièrement, mon père m'a dit qu'il va pourvoir à tous mes besoins.
Amen.
Elle est une épée et c'est fort. Père, je veux prier aujourd'hui. Et je termine, je vais prier pour vous, mais je termine avec le psaume 91, le verset 14 et 15. La parole dit, parce qu'il m'est attaché à moi. Là, c'est comme si Dieu qui parle. Parce qu'il m'est attaché à moi. Le Seigneur, je vais le sauver et le protéger car il me connaît. Je veux le déclarer sur ta vie. Il m'invoquera et je lui répondrai. Oui, je serai avec lui au moment de la détresse.
Amen.
Tu vois ce que je dis? Tu lis ça et ça fait waouh! Oh Seigneur, mon Dieu, t'es avec moi au moment de la détresse.
Amen.
Et je le délivrerai, je le couvrirai de ma gloire, je le comblerai de jour et je lui ferai connaître mon salut. Seigneur, on veut prier aujourd'hui. On est ici ensemble et ils vivent quelque chose qu'on ne peut pas imaginer ni comprendre en ce moment. Mais je prie que ta parole, ce qui a été dit, je prie que premièrement, il y ait une fin pour ta parole, qu'il puisse aller plonger les regards dedans afin que tu puisses faire ton œuvre, ce que toi seul peux faire par ton esprit. Et comme on vient de le lire ici, tu dis, il m'invoquera et je lui répondrai, je serai avec lui au moment de la détresse. Seigneur, on invoque ton nom aujourd'hui, au-dessus de toutes circonstances que nos frères et nos sœurs vont vivre, afin que dans la détresse, tu puisses les assister. Qu'ils sentent ta main agir.
Amen.
On prie qu'il y ait des déblocages. On prie que, au-delà même d'un réconfort qui est déjà extraordinaire, Père, il puisse y avoir la percée qui se manifeste dans leur vie.
Amen.
Que cette année soit une année de victoire, une année où ils vont pouvoir regarder en arrière et dire, cette année, j'ai vécu des victoires à cause et grâce à mon Dieu que je sers, que je connais, que j'adore. Seigneur, je veux te remercier parce que tu relèves nos frères et nos sœurs.
Amen.
Merci Seigneur, dans le nom de Jésus, on prie. Amen.
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 Merci Frank pour cette pensée encourageante. Et je vais continuer dans la même lancée que toi parce que tu parles de combien la parole de Dieu est puissante dans ces moments-là. Et on va regarder notre verset du jour qui nous emmène dans le psaume 23. Le psaume 23, lisez-le au complet et encore.
Oui.
Psaume 23, on va aller au verset 4 directement. « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi.
Yes.
Ta houlette et ton bâton me rassurent.
Mm-hmm. »
Ce verset est magnifique. Il y a des moments où on a vraiment l'impression de traverser cette vallée de l'ombre et de la mort. On a l'impression que la mort est en train de nous courir après et gagne du terrain. On vit des situations des fois où on voit, oui, on ne voit pas la lumière du soleil. Mm-hmm. On est tellement découragé. Et on lit ce verset et on dit,
ouais.
Je n'ai rien à craindre parce que tu es avec moi.
Mmh.
Dans les moments difficiles, ce qui est le plus dur, c'est ce sentiment, en fait, d'impuissance. L'impression qu'on n'a pas de solution, que par nous-mêmes, on peut rien faire. Et si on n'a pas cette conscience que Dieu est avec nous, c'est terrible, c'est le désespoir qui nous gagne. Mais quand tu sais que Dieu est avec toi, même si tu le ressens pas, tu sais qu'il est là.
Oui.
Ça te donne tellement de force, mm-hmm. tellement de courage. Et là, tu peux te lever et manifester toute la foi qu'il est nécessaire pour recevoir ta percée et sortir de cette vallée.
Et dans ces temps-là aussi, lorsqu'on va plonger le regard dans la parole. En fait, la parole va nous permettre de voir la grandeur de Jésus-Christ plus que la grandeur de la situation.
Oui.
quelquefois, c'est ça qui est dur, c'est que tellement ça dure que la situation a gagné du terrain, c'est la situation qui environne. Et parfois, on ne voit même pas les victoires intermédiaires que le Seigneur nous donne. Mais moi, j'ai vraiment appris à le voir. C'est qu'il y a des situations comme ça qui semblent impossibles. Dans Samuel, on voit Anne, par exemple, qui était dans une situation qui était très difficile pour elle. Et dans la Bible, on nous dit que chaque fois que Pénina la mortifiait, elle pleurait. Mais un jour, elle s'est retrouvée au temple et elle dit à Dieu, « Seigneur, je te donne cet enfant si tu me le donnes. » Dans cette situation, moi, mon analyse, c'est que au début, c'était des pleurs, mais elle est arrivée à un moment où elle a commencé aussi à regarder aux intérêts de Dieu. Si ça se trouve, au début, elle n'était pas là. Mais c'est une victoire que de savoir que maintenant, mon cœur est tourné vers les intérêts de Dieu, je peux le faire. Et trop souvent, dans les processus d'épreuves difficiles et parfois longs, c'est que le cœur est tellement sur l'épreuve qu'on ne voit plus les grâces de Dieu. Tu vois plus que hier, c'était tellement très difficile, mais aujourd'hui, je suis plus fortifiée. Aujourd'hui, je regarde plus à Dieu. Aujourd'hui, Dieu a fait un travail à l'intérieur de moi. Ça, c'est ce que j'appelle les victoires intermédiaires. Et c'est important de compter les bienfaits de Dieu dans ce moment, parce que c'est ça qui fortifie. C'est ça qui permet d'aller de l'avant. Pas juste voir la finalité, voici ce que je veux, mais sur le chemin, il y a des choses que Dieu a fait et il ne faut pas les négliger.
C'est vrai. C'est vrai. Et dans la société dans laquelle on est, il y a un mot, je ne sais pas si vous l'entendez aussi souvent que moi, mais résilience. C'est le nouveau mot un peu à la mode. Et la résilience, qu'est-ce que c'est? C'est finalement la capacité à supporter quelque chose qui est insupportable. En gros, je me prends des coups, mais je reste debout. Et la résilience, c'est merveilleux. Mais je crois que les chrétiens ne peuvent pas s'arrêter juste à la résilience, à dire « je me prends des coups et je reste debout ». Il faut associer la résilience à la persévérance. La persévérance fait que tu continues à avancer. Non seulement tu restes debout, c'est Dieu, mais tu continues à avancer. Cette marche de la foi, ce combat de la foi dont tu parlais, Frank, dans ta pensée, tu le continues. Tu ne peux pas te contenter juste de dire « je supporte ». Non, il faut à un moment donné passer à l'action. Il faut dire, je vais aller chercher cette percée. Je vais foncer et en fixant nos yeux justement sur ces percées qu'on a sur le chemin, pas après pas, je reçois une percée et j'avance et je ne m'arrête pas jusqu'à l'obtention de la finalité.
J'aime ce que tu dis parce que justement, dans l'épreuve, parfois on modèle la vie à la situation. C'est que maintenant, il y a une situation et ma vie dépend de la situation. Mais continuer d'avancer, c'est, j'ai pas envie de dire nier la situation, mais c'est mettre la parole de Dieu vraiment au-dessus de cette situation-là et vivre sur la base de ce que la parole dit par rapport à la situation. Il y a des personnes qui vont peut-être passer des moments très difficiles, mais toute la maison sera organisée en fonction du moment difficile. Au lieu d'organiser la structure de la vie en fonction de la parole de Dieu. Et c'est important de se dire comme ça, si c'est votre cas, de vous dire non, il faut que ça change en fait. Je dois dans ma réalité vivre en fonction de la parole de Dieu. Parfois, c'est difficile parce que parfois, la situation t'oblige à demeurer d'une certaine manière. Mais dans la mesure du possible, en tout cas, on doit bâtir, construire, faire les choses vraiment sur la base de cette parole-là, surtout dans notre environnement.
Ouais. Et là, concrètement, c'est vendredi. Et je veux t'encourager à lire la parole aujourd'hui, samedi, et dimanche, déjà, c'est 3 jours. Si tu vis et traverses quelque chose. Je ne veux pas exagérer, les filles, mais je pense que je peux dire qu'à tous les coups que j'ai lu la parole, elle m'a parlé où je fais « Ouh, c'est bon. Oh, j'avais oublié. Ah ouais, c'est vrai. » En fait, tu peux pas te... Il y a toujours de quoi qui ressort. Et donc, dans les 3 prochains jours, prends la décision de méditer la parole de Dieu. Là, je te dis pas d'aller lire tout Lévitique. Va lire le psaume 91 s'il faut. Va lire les évangiles. Vois la bonté de Jésus en action. Rappelle-toi comment il agissait. Vois sa grâce. Des fois, c'est une phrase. Tu connais l'histoire, mais tu vois une phrase de cette histoire que tu avais oubliée qui te parle et qui booste ta foi. Aujourd'hui, concrètement, mets en action ce qu'on vient de voir ensemble. Et que le Seigneur te bénisse alors que tu le fasses.
Amen, amen. Même Bible en audio, ça c'est génial. Quand tu cuisines, tu fais de la lessive, tu plies du linge, peu importe ce que tu es en train de faire dans ta maison, tu mets la Bible en audio, ça c'est génial. Parce que ça permet d'avoir, au lieu que tes pensées tournent dans ta tête, c'est la parole de Dieu qui tourne dans ta tête. C'est pas, tu médites pas la parole dans ces moments-là, quand c'est la Bible en audio, mais tu te nourris de la parole.
C'est ce que tu entends.
Exactement, exact. Allez, un bon témoignage maintenant qui va vous encourager. Je vous laisse découvrir l'histoire assez incroyable, je dois le dire, du pasteur Chris Crampton. Et on se retrouve pour notre rubrique « C'est mon histoire ». Aujourd'hui, j'ai la joie d'avoir avec moi le pasteur Chris Crampton du ministère Tout est possible. Bonjour Chris.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec moi pour cette émission. Merci de pouvoir raconter une histoire qui n'est pas facile et que tout le monde ne raconterait pas forcément tout le temps. Tu vas nous partager un an d'horreur que tu as vécu à l'hôpital. Je pense qu'on peut le résumer de cette façon-là. Hein. Pour comprendre l'histoire, toi, tu viens de te convertir, tu es jeune converti à ce moment-là, et puis tu vas avoir un diagnostic d'une pancréatite aiguë. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est ?
Pancréatite aiguë, c'est le pancréas qui, il y a plusieurs raisons, va se mettre à faire comme un volcan, en fait. C'est comme si qu'à un endroit dans le pancréas, il part en éruption. Mm-hmm. Et ça chauffe. On commence à avoir des douleurs au ventre, on commence à avoir des douleurs au dos. Et c'est quelque chose qui est continuel. Mm. Ça ne s'arrête pas. Et à un moment donné, le corps ne supporte plus. Et moi, c'est comme ça que ça s'est passé. J'étais au volant de ma voiture. J'étais dans le sud de la France. J'étais parti le matin faire un petit tour. Et puis, je commence à sentir les douleurs. Je sens que c'est quelque chose qui est pas normal. Tout de suite, j'appelle ma femme et je lui dis je pars aux urgences. Je mets la voiture aux urgences, je rentre très vite, je sens que c'est compliqué. Et quand j'arrive devant les infirmiers, je tombe par terre et je fais un malaise.
Waouh, de douleur en fait.
De douleur, en fait, les douleurs elles sont tellement intenses qu'on n'arrive pas à supporter.
C'est fou. Mmh. Il faut savoir qu'à ce moment-là, vous êtes mariés depuis quoi, 8 mois à peu près avec
Ça fait un an et demi qu'on est mariés. Un an et demi qu'on est mariés. Et puis c'est quelque chose qu'on prévoit pas hein, quand on vient de se marier, bien sûr.
Mais oui, c'est sûr. Grosse épreuve. Et là, donc, tu vas être hospitalisé pendant à peu près 2 mois cette fois-là, c'est ça?
Alors, je me suis fait hospitaliser, oui, pendant quelques mois au début, et où on a diagnostiqué en fait que c'était un excès de nourriture ou ces choses-là. Et je suis sorti de l'hôpital. Ça a duré quelques mois où ça allait un petit peu mieux. Mmh. Et là, j'ai fait une rechute. Mmh. À peu près la même chose.
Wow. Mmh. Et là, comment ça va se passer alors ?
Là, c'est compliqué parce que à cette époque-là, je suis à l'hôpital de Perpignan. Et les douleurs sont tellement fortes. Je vais sous la douche toute la journée pour me passer de l'eau froide. Et me passer de l'eau très chaude.
Waouh. Et ça te soulage?
C'est la seule chose qui me soulage. Morphine, on m'a donné. Kétamine, on m'a donné. Opium, on m'a donné. Et comme si ça suffisait pas, j'étais intolérant à tous ces cachets-là, quoi, à tous ces produits. Donc, je prenais vraiment les douleurs en pleine face. Et c'est la seule chose qui me soulageait. Mais le problème, c'est qu'ensuite, j'ai la peau qui partait. Mm. Et les docteurs voulaient plus du tout que je fasse ça parce que c'était contre-productif par rapport à la suite.
Et tu m'expliquais que c'est des douleurs comme une femme qui accouche, mais en continu, en continu, comme des calculs rénaux,
voilà,
comme des douleurs atroces. En fait.
Voilà, pour ceux qui ont déjà eu des calculs, oui. C'est quelque chose qui ne s'arrête jamais. En fait, ça s'arrête.
C'est affreux.
Ça s'arrête pas. Ouais.
C'est affreux. Et donc, t'es jeune converti. Au niveau de ta foi, tu vis ça comment ?
Au niveau de ma foi, moi, j'avais été élevé dans un évangile où on me dit « si tu as des épreuves, c'est que tu es dans le plan de Dieu ». Donc, mais au bout d'un moment, on demande aussi au plan de Dieu un peu de s'arrêter. Et alors, j'ai été soutenu quand même parce que j'ai un grand nombre de personnes qui venaient me visiter à l'hôpital où on a prié beaucoup pour moi, mais la vérité, pas beaucoup de résultats. Mm-hmm. Et je suis à Perpignan, je suis hospitalisé là-bas. Et un matin, j'ai les médecins qui viennent me voir et qui me disent « Voilà, monsieur Campion, ici, on ne peut plus rien faire pour vous. » Et là... Moi, je ne suis pas médecin. Je prie, il n'y a rien qui vient. Donc, comment ça se passe ?
Ben oui.
Et j'ai mon père qui, sur Paris, parce que mon frère a été malade pendant des années, avait tout un réseau de médecins qu'il a pu rencontrer. Donc, il a appelé des connaissances et il m'a fait hospitaliser dans, d'un hôpital sur Paris où ils m'ont pris en charge, ils m'ont fait les examens, puis on a testé plein de choses. J'ai eu ce qu'on appelle un pseudo-kyste qui a gonflé dans le ventre, qui était entre 30 et 40 centimètres de diamètre.
C'est énorme.
Donc ça m'appuyait sur le devant, et ça m'appuyait dans le dos, ça m'a touché la rate, le cœur, les reins, foie, estomac, les intestins, poumons. Donc c'était quelque chose qui était... Je ne sais pas si je m'en rendais bien compte, en fait. Parce qu'il y avait tellement de souffrance, tellement de choses, que... Et puis aujourd'hui, je suis conscient qu'il y avait quand même une paix, il y avait quand même quelque... Je sentais que Dieu était là, mais je voyais pas le bout du tunnel, en fait. Et voilà, on a essayé une opération, deux opérations, trois opérations. J'ai subi peut-être une vingtaine d'interventions.
Qui n'ont produit aucun...
Ça délocalise le problème de 15-20 jours. On met l'espoir dans tout ça. Et moi, j'ai pas été élevé à être au départ vraiment un homme de foi, à croire que Dieu peut agir. Donc, ma foi était beaucoup plus orientée sur ce que le médecin disait et pouvait faire que sur ce que Dieu aurait pu faire.
C'est ça.
Et ça a été un grand problème.
Bah oui, il y avait comme une espèce de passivité finalement.
Exactement.
Au niveau de la foi. Et tu m'expliquais aussi que le moyen qu'ils avaient trouvé, c'était de rendre ton tube digestif complètement inactif. Donc tu ne mangeais plus et tu ne buvais plus.
Voilà.
Pendant combien de temps, ça?
Alors, ça a été pendant presque toute la période. Parce que quand le pancréas est comme en éruption, ça touche le duodénum, ça veut dire le petit intestin qui est juste en dessous l'estomac. Et ça l'avait complètement brûlé. Ça veut dire qu'il n'y a plus rien qui passait. Donc on essayait de m'alimenter avec des sondes, et forcément ça ne passait pas, puisque c'était... voilà. Donc après on m'a alimenté avec d'autres sondes, qu'on m'a mis des cathéters, on m'a posé des cathéters. Et c'était insupportable, parce que dès qu'il y avait comme une lueur d'espoir, ou tout ça, il y avait quelque chose de supplémentaire qui arrivait. J'ai attrapé des staphylocoques. Après, j'ai attrapé des virus, parce que quand on reste trop longtemps dans un hôpital,
on
est faible,
tout, hein.
On attrape tout ce qui vient. Et il y a eu un moment donné où j'ai été quand même, je ne vais pas dire révolté contre Dieu, mais j'étais quand même dans... Oui, c'est une forme de rébellion dans mon cœur, parce que la confusion était venue s'installer.
Mm-hmm.
Alors on écoute les prédications, Dieu m'a béni, Dieu a fait ça, puis toi, il n'y a rien qui se passe.
Ben oui, forcément. Mm. Et à un moment donné, il y a un médecin qui va te proposer une intervention qui est très, très risquée. T'as un médecin qui est favorable, t'as un autre médecin qui te dit ne faites surtout pas ça. Comment ça se passe cette période?
On est dans une période où famille est là, on est ensemble, et le médecin que l'on connaît à Paris nous dit à mon père, si c'est mon fils, moi je l'opère.
Okay.
Et on nous présente un médecin qui est en Belgique, qui maîtrise aussi ce sujet-là. J'ai essayé quelques traitements avec son intermédiaire. Il dit à mon père, si c'est mon fils, dans l'état où il est, moi, je ne le touche pas. Et ce sont deux bons médecins. Donc, nous, on est devant un grand problème. On ne sait pas, voilà, on ne sait pas quoi faire. Et il y a des choses qui vont être déterminantes. J'ai mon ancien, celui qui, après, s'est occupé de moi dans le ministère, est venu me visiter dans l'hôpital. Et puis, il m'a dit quelque chose. Il m'a dit, Chris... Il dit, tu as été appelé à prêcher. Je dis, oui, j'ai été appelé à prêcher. Il dit, est-ce que tu as déjà prêché? Et à cette époque-là, je n'avais jamais prêché encore. Ben, je dis, non. Donc, il dit, sur cette parole, il dit, tu ne peux pas mourir.
Mm-hmm.
Et ça a vraiment été quelque chose qui, pour moi, a été révélateur.
Wow.
Oui, si Dieu dit, eh ben, Dieu le fera. Donc, il ne peut pas avoir un accident de parcours. Je refuse ça. Et avec ma femme, on a commencé à prier différemment.
Mm-hmm.
C'est vraiment quelque chose. Et un matin... ma femme s'est réveillée et elle a commencé à prier et elle a vraiment eu vraiment une forte conviction de venir m'annoncer un message qui pour elle était très dur. Elle vient me voir et elle me dit, voilà ce que le Seigneur me dit. Tu ne le recherches pas. Mais quand elle me dit ça, moi je prends ça en pleine figure. Il y a 10 mois que je suis là. Je suis pas bien. J'ai perdu 45 kilos. On a fait des réunions dans l'hôpital. J'ai peut-être 300 pasteurs qui sont venus, littéralement, moi, 300 pasteurs qui sont venus prier pour moi. Il y a rien qui se passe. Tu me dis que je cherche pas Dieu. Et on a, nous, l'habitude d'avoir des petits pots à côté où on tourne des petits versets et on prend un verset. Voilà.
Oui.
Et je tire un verset au même moment, mais je suis pas bien parce que j'accepte pas trop ce qu'elle est en train de me dire. Et ce verset, c'est toute chose concourt au bien. de ceux qui aiment Dieu et ceux qui sont appelés. Et en fait, dans le toute chose, j'ai compris qu'il y avait les chemins qu'on voulait, mais il y a aussi les chemins qu'on ne veut pas. Et donc, on a prié le Seigneur. Moi, j'avais un tube ici, une perfusion là, j'étais branché de tous les côtés. Et j'ai appelé l'infirmière, je dis, vous m'enlevez tout, je dis, je passe par l'opération. Ah non, monsieur, vous pouvez pas. Je dis, si vous l'enlevez pas, c'est moi qui vais l'enlever. Donc, je dis, je veux tout enlever, appelez le médecin, moi, je vais me faire opérer. Et ça a été, il commençait à rentrer comme une conviction, comme quelque chose où c'était comme ça et pas autrement.
Ouais.
2 jours plus tard, je passais par l'opération, donc ils m'ont fait une dérivation et puis 2-3 autres choses. Et quand je suis remonté dans ma chambre, en fait, ils m'ont même pas mis en salle de réveil. L'opération s'est tellement bien passée, ils m'ont mis directement dans ma chambre et je me suis réveillé. Et là, quand je me suis réveillé, j'ai senti que, par l'intermédiaire des médecins, sur la conviction que Dieu m'avait donnée, Dieu était intervenu.
Wow.
Une semaine après, on a commencé à me réalimenter et on m'a donné un verre d'eau chaude et une biscotte.
Super.
Au bout de 10 mois, je croyais que j'étais dans un des plus grands restaurants de Paris. Et le plus beau, c'est parce que je bois le verre d'eau chaude et j'ai peur que ça passe pas.
Ben oui.
Mais quand je bois, je sens que ça me fait rien. Donc il y a toute cette pression qui est en train d'être relâchée. Je regarde ma femme elle me regarde, ça y est, on est à la fin là. Ça y est, il se passe quelque chose. Et 15 jours après, j'étais dehors.
C'est magnifique.
J'étais dehors et on était dans notre lieu de travail. Et puis mon père, quelques mois plus tard, a appelé les médecins qui s'étaient occupés de moi pour les remercier. Parce qu'ils ont été fidèles, ils nous ont aussi beaucoup aidés. Et à un moment donné, le chirurgien qui m'avait opéré se lève, il dit, il est 22h, je dois m'en aller. Demain, j'opère un joueur de foot. Et il dit, j'ai son avenir, j'ai sa carrière qui est entre mes mains. Et à ce moment-là, j'entends audiblement le Seigneur me parler. Et il me dit, Christ, si toi aujourd'hui tu es là, c'est parce que ton avenir, tu l'as mis entre mes mains. Et ça a été vraiment quelque chose qui a été pour moi révélateur et c'est une source aujourd'hui d'appui pour pouvoir avancer.
C'est magnifique, c'est magnifique. Et on a une photo où on te voit manger quelque chose. Alors c'est anecdotique, mais je trouve que dans ton histoire, je crois que des petits moments d'espoir, il y en avait. Tu manges pour la première fois, c'est quoi, un éclair au chocolat ou je sais pas. Un éclair au café,
voilà.
Précisément. C'était au bout de combien de temps que tu as pu remanger quelque chose comme ça?
C'est entre 10 mois et 1 an. En fait, moi, je suis très sucrerie et ça faisait 1 an que j'avais pas mangé un gâteau. Et c'est ma femme qui avait été me le chercher, elle me l'avait ramené dans la caravane. Et pour moi, c'était c'était un grand champagne que j'étais en train de déguster.
C'est sûr. Et aujourd'hui, ça va bien?
Aujourd'hui, ça va.
Wow.
J'ai repris de la force, si ça se voit.
C'est ça, du muscle.
Ouais, c'est ça.
Merci beaucoup, vraiment. Quel témoignage. Merci, c'est très courageux de ta part de partager cette histoire qui est quand même très, très personnelle et profonde quand même. Mais on rend grâce à Dieu. Aujourd'hui, il t'a guéri, il t'a relevé, il t'a restauré. Et vraiment, c'est une grâce. Merci beaucoup, Chris.
Alléluia.
Tellement ce témoignage. Encore là, en le réécoutant, je le revis parce qu'ému. C'est vraiment beau, vraiment. Et j'avais vraiment l'impression, en l'écoutant, je me disais, mais je suis convaincue que certains d'entre vous l'écoutez et vous êtes en train de vous dire, mais je le comprends tellement. Je vis quelque chose de similaire, pas forcément médical, mais ce temps d'attente et cette impression que Dieu nous a oubliés, mais Dieu ne vous a pas oubliés. Dieu est avec vous et levez-vous dans la foi. Ne renoncez pas, persévérez jusqu'à l'obtention du miraculeux. Eh bien, on est arrivé à la fin de cette très belle semaine. Je suis sûre que vous avez été bénis et encouragés. On vous souhaite un très bon week-end et n'oubliez pas ce que Frank a dit. On lit la parole aujourd'hui, samedi, dimanche.
Yes.
Si possible, continuez, hein, c'est bien. Allez, passez un très bon week-end et bonjour chez vous. We'll be right back.
Belle fin de semaine sur Phare FM, on est vendredi 26 avril, il est 5h30. Fort avec Disturbed, avec The Sound of Silence, c'est une nouveauté sur Phare FM.
5h30, 6h30, Cocorico
avec Innocent.
Coucou à tous les leftos en France, en Suisse, en Belgique et partout ailleurs, bienvenue sur Phare FM. Moi c'est Innocent avec vous jusqu'à 6h30. Franchement je suis curieux, vous savez moi je me réveille dès 3h du matin, 4h au grand plus tard, hein. Vous savez quand je me couche un peu à minuit. Parfois je me lève à 4h, mais si je me suis couché à 20h30, alors là vous pouvez être sûr que à 3h du matin je suis debout. Alors qui est comme moi, qui se réveille très tôt comme ça? N'hésitez pas à vous manifester au 0652 300 300 300 400 non, attends, je veux recommencer. 0 652 300 300 42. Voilà, ça c'est le bon numéro. Allez, la suite du programme sur Phare FM dans 6 minutes. Retrouvez votre rendez-vous quotidien, Parole du jour. Et si vous ne recevez pas encore chez vous la brochure trimestrielle Parole du jour, n'hésitez pas à vous rendre sur paroledujour.com. Côté musique, We Are Messengers, voici God Be The Glory. Belle matinée sur Phare FM.
When the ground beneath my feet is shaking like a leaf, God, you're still good to me. When my hope is all but gone and I'm barely hanging on, God, you're still good to me. When my heart can't find a beat, when it's dark and I can't see, I will put my hope. For my morning,
God, you're so good to me. There's one thing I am sure, your promises endure. You make a way for me. When my heart can find a beat, when it's dark and I can't see, I will put my hope in you. Mountain, ashes for beauty, mountain, joy for my morning, mountain, to God be the glory, to God be the glory. Mountain, stand for my weakness, mountain, pain for my healing, mountain, let this be my story. Your name, I will put my hope in you. When I run into your courts, I will fall into your arms. I will sing a song of praise. Mountain, ashes for beauty, mountain, joy for my morning, mountain, to God be the glory.
Tout ça ne t'impressionne pas. Tu t'intéresses plutôt à mon cœur dans ton grand amour pour moi. Alors je fixe mon attention sur toi et rien que sur toi. Je fais taire toutes mes distractions et je les remplace par ta voix. Je veux écouter ta voix.
Parle à mon cœur, parle à mon âme. Comme toi seul sais si bien le faire. Chasse mes peurs, sèche mes larmes. Et je ne serai jamais plus le même. Alors parle à mon cœur. We'll be right back.
sur Phare FM. Admirer un coucher de soleil ou le sommet d'une montagne éveille en chacun de nous quelque chose de spirituel. C'est l'extrait de ce que vous allez écouter maintenant sur Phare FM dans Parole du jour.
5h30, 6h30, Cocorico.
Avec Innocent. Parole du jour, chaque jour un mot d'encouragement avec Bob et Debigas.
Dieu vit alors tout ce qu'il avait fait et voici, c'était très bon. Genèse 1, verset 31. Contempler et adorer. Bonjour à tous. La première réaction notée dans la Bible est celle de Dieu face à sa création. Chaque jour, il contemple ce qu'il a fait et déclare « c'est bon ». Puis le sixième jour, lorsque la création est achevée, il dit « c'est très bon ». C'est pourquoi admirer un coucher de soleil ou le sommet d'une montagne éveille en chacun quelque chose de spirituel. Thomas Carlyle disait « l'adoration est un émerveillement qui transcende, pour lequel il n'y a ni mesure ni limite. On s'émerveille devant le Créateur et sa création. On traduit la beauté de la création en adoration du Créateur. On remercie Dieu pour les aurores boréales, les étoiles et les flocons de neige. On rend à César ce qui appartient à César, c'est-à-dire au Créateur. » Le psalmiste l'a exprimé en ces termes « Les cieux racontent la gloire de Dieu. » Psaume 19, verset 2. Le groupe U2 l'a chanté dans son célèbre titre « Beautiful Day ». Un tel émerveillement est aussi un acte d'adoration. Un pasteur écrit « Le lever du soleil est un événement si régulier qu'il en devient banal, alors qu'il n'y a rien d'aussi prodigieux que cette chorégraphie céleste. La Terre tourne sur son axe à une vitesse de 1600 km/h, et tandis qu'elle effectue une rotation de 360 degrés sur son axe toutes les 24 heures, elle se précipite dans l'espace à la vitesse incroyable de 100 000 km/h. Ainsi, en un an de rotation autour du Soleil, la Terre ne parcourt pas moins de 1,6 million de kilomètres. Quel exploit ! Prenez donc le temps de vous émerveiller et d'adorer Dieu.
Recevez la brochure Parole du jour chez vous en vous abonnant gratuitement sur paroledujour.com ou sur l'application Parole du jour.
Bientôt 6h sur Phare FM, bienvenue si vous nous rejoignez. C'est parti, c'est votre encouragement défiant de la journée. J'exprime l'amour. Un bel encouragement pour vous, à retrouver juste après Stéphane Sanchez.
Georgia, write me up and all you hurt you. In my arms, let me hold you. I'll never let you go again like I did or used to say. I would never fall in love again until I found her. I
petit coucou aux chauffeurs routiers. Vous écoutez Phare FM, vous rentrez chez vous tranquillement à la maison avec cette musique qui ne vous endormez surtout pas. Hein. Allez, un encouragement pour vous encourager aujourd'hui. Surtout vous défier, c'est le rendez-vous. C'est parti sur Phare FM et c'est maintenant.
À quel point aimez-vous votre vie ? Il y a toujours de quoi remettre en question notre réalité lorsqu'on la regarde à la lumière de celles et ceux qui subissent malgré eux des situations tragiques ou des attaques inexplicables. L'homme est capable du pire, comme du meilleur. L'histoire de l'humanité en est à la fois le reflet et la leçon à garder au cœur pour ne pas qu'elle se répète ou encore plus tristement s'amplifie. À l'autre bout du monde ou près de chez soi, l'opportunité est sans doute donnée de pouvoir apprécier à sa juste valeur notre condition et faire tout ce qu'il nous est possible avec tout autant de justice pour que la condition de nos semblables soit un tant soit peu meilleure que la nôtre. Sans nul doute qu'alors, tel un boomerang vertueux, notre monde deviendrait l'idéal tant espéré. Philosophe, théologien, essayiste, enseignant, critique littéraire, romancier, le prolifique britannique C.S. Lewis a pu écrire « Aimer n'est jamais du gaspillage, car sa valeur ne dépend pas de la réciprocité ». En voilà une pensée radicale. Même quand tu peux avoir l'impression de faire les choses en l'air, Johan, tu ne peux pas savoir comment le vent peut emmener plus loin la portée et l'impact de ce que tu as semé. Et si aujourd'hui, j'exprimais ces marques d'amour qui ne me viennent pas naturellement ? C'est souvent dans l'inconnu que l'on apprend à mieux se connaître.
Phare FM, une autre musique.
There's a fire in my bones, stirring up my soul, I feel invincible. There's a truth inside my heart, burning like the stars, I feel unstoppable. Before I knew his love, I was all messed up till he put me back together. I went from death to life, went from blind to sight, went from black and white to color. Shake the dust beneath. Don't you know? Fear cannot compete against the sound of victory. It makes me wanna sing. Yeah, I got that joy, joy, joy unspeakable. I got that joy, joy, joy unspeakable. I'm throwing off my stress like it makes no sense. I got that joy, joy, joy unspeakable. I'll prosper, stand. I'm not isolated, I'm held in his hands. No, it's not a secret, he wins in the end. So fear can't contain all the joy that's within.
Unspeakable Henry à l'instant, une joie qu'on ne décrit même pas indescriptible sur Phare FM. Dans 10 minutes, on retrouve la rédaction pour un point sur l'actualité, suivi de votre météo et aussi Bible Projects dans 3 minutes, juste après Irina Rimes. Voici Changer sur Phare FM. Belle journée.
J'ai de mon accent quelques notes, des mélodies, quelques fautes, souvenirs de mon enfance, dans cette vie qui a vengé sans mon sourire, des histoires. Quelques folies en mémoire, au final un peu de chance dans cette vie qui avance. Il faut se faire à l'idée, rien n'est trop beau. point de départ, y'a pas d'arrivée. Le reste c'est ce qu'on en fait. Personne n'attend rien de moi. Y'a la place pour deux, pas pour toi. Je crois que je le sais déjà, tu sais. J'ai dû changer de route, de terre, de pays, changer de foi. J'ai dû prendre mes doutes, mes valises, en sauté mes rêves avec moi. J'ai dû changer d'horizon, changer de maison, même changer de voix. Mais je changerai pas ma façon d'être à toi. Comme toutes les femmes du monde, besoin de reconnaissance dans cette vie qui avance. J'ai choisi de grandir et d'apprendre, de tout donner, de tout prendre. Laisser derrière mes absences dans cette vie qui avance. Il faut se faire à l'idée, rien n'est trop beau pour être vrai. Y a un point de départ, y a pas d'arrivée. Le reste c'est ce qu'on en fait. Personne n'attend rien de moi. Y a la place. Je crois que je le sais déjà, tu sais. J'ai dû changer de route, de terre, de pays, changer de foi. J'ai dû prendre mes doutes, mes valises, en sauté mes rêves avec moi. J'ai dû changer d'horizon, changer de maison, même changer de voix. Mais je changerai pas ma façon d'être à toi.
Expérimenter la Bible comme une seule et même histoire menant à Jésus.
La lettre de Paul à Tite. Tite était un disciple grec de Jésus qui a longtemps été pour Paul un compagnon de voyage et un collaborateur de confiance. Il avait par le passé aidé Paul à traverser certaines situations de crise. Et dans cette lettre, nous découvrons que Paul lui a confié la tâche d'aller en Crète, une très vaste île au large de la côte grecque, pour remettre de l'ordre dans un réseau d'églises de maison. La culture crétoise était notoirement connue dans l'Antiquité pour ses travers. D'ailleurs, l'un des mots grecs pour dire menteur était crétizo, être un crétois. Ces gens étaient tristement célèbres pour leur traîtrise et leur cupidité. La plupart des hommes sur l'île avaient servi de mercenaires à la solde du plus offrant et les villes de l'île étaient réputées dangereuses, en proie à la violence et à l'immoralité sexuelle. Cependant, l'île de Crète disposait de plusieurs ports stratégiques qui desservaient les villes de toute la Méditerranée antique. Ce qui, du point de vue de Paul, faisait de la Crète le parfait endroit pour démarrer un réseau d'églises. Seulement, il se trouve qu'à un certain moment, ces églises sont tombées, on ne sait pas trop comment, sous l'influence de chefs crétois corrompus qui se disaient chrétiens.
Phare FM vous a présenté Bible Project. Retrouvez cet épisode en intégralité et en vidéo sur bibleproject.com/français.
Phare FM, la radio autrement.
I hear a lot about sinners. Don't think that I'll be a saint, but I might go down to the river. 'Cause the way that the sky opens up when we touch it, it's making me say that the way you hold me, hold me, hold me, hold me, hold me, feels so holy, holy, holy. Track star, can't wait another second. 'Cause the way you hold me, hold me, hold me, hold me, hold me, feels so holy. I don't do well with the drama, and no, I can't stand it being fake. No, 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 no. I don't believe in nirvana, but I.
But the way that we love in the night gave me life, baby. I can't explain it. The way you hold me, hold me, hold me, hold me, hold me. Feel so holy, 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 holy. Oh God, running to the altar like a track star. Can't wait another second. Cause the way you hold me, hold me, hold me, hold me, hold me. Feel so holy. They say we're too young and the pimps and the players say don't go crushing. Wise men say fools rushing, but I don't know. They say we're too young and the pimps and the players say don't go crushing. Wise men say fools are rushing, but I don't know.
Chance, the rapper.
The first step pleases the father. Might be the hardest to take, but when you come out of the water,
I'm a believer, my heart is fleshy. Life is short with a temper, like Joe Pesci. They always come and sing your praises, your name is catchy. But they don't see you how I see you, Parlay and Desi. Cross tween, tween, Hesse, hit the Jets beat. When they get messy, go lefty, like Lionel Messi. Let's take a trip and get the Vespas, or rent a jet ski. I know the spots that got the best weed, we going next week.
I wanna honor you.
Rise groom, I'm my father's child. I know when the son takes the first step, the father's proud. If you make it to the water, he apart the clouds. I know he made you a snack like Oscar Proud. Suffer it to be so now, gotta clean it up. Formalize the union and communion he could trust. I know I ain't leaving you like I know he ain't leaving us. I know we believe in God and I know God believes in us.
You hold me, hold me, hold me, hold me, hold me. Feel so holy, 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 holy.
Let's go!
Where you been? Running from things that you know. Just trying to find where to live. But it's not bringing you home. As if hope was a pill or a bottle or a phone that could hold me and heal all my sorrow, but still nothing upholds me and frees my tomorrow like you. Ooh. With you I see the morning always comes. With you I hear the story told by seasons rising like the sun, cause morning always comes. Sometimes I'm fine in the backseat, feels like my life's moving past me. And I get so caught up in things I'll forget 10 days from last week. There's too much blessing every day for me to leave on the shelf. Just lift your head cause there's no reason you should be by yourself. Cause life is a gift worth more than trying to survive. The sun still rises tomorrow if it's 9 or it's 5. If you're looking for goodness, then that's what you'll find. Mm-hmm.